OK, ben il y a des journées comme ça, hein? Vive le direct. Philippe Bonneville, donc, qui va être au Super Bowl. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Bon, tu as rencontré l'agent de Laurent Duvernay-Tardif. Il paraît que tu as une très belle histoire à nous raconter.
Absolument. Laurent Duvernay-Tardif, il est ici depuis un petit bout de temps, mais son agent, lui, Sacha Gavamy, un Québécois, un Montréalais, lui, il est arrivé, il est sorti de l'avion il y a quelques heures à peine et je viens tout juste de réaliser l'entrevue. C'est tout chaud, là. Tu sais, t'es le premier à qui on peut diffuser ces extraits d'entrevue-là. Et ce qui est intéressant, pour les gens qui ne le savent pas, là, Laurent Duvernay-Tardif et son agent, c'est pas seulement une relation d'affaires, c'est une relation d'amitié. Ça remonte au cégep André Grasset. Ils étaient deux étudiants, ils se sont connus, sont devenus amis. Et son agent, maintenant, lui, se dirigeait vers le droit, mais avait toujours eu le désir d'être agent de joueur. C'était un rêve qu'il avait. Mais là, quand Laurent est devenu très bon au football, il s'est cherché un agent et il a contacté son ami, Sacha. Je viens de parler donc avec Sacha. Je te laisse entendre premièrement un extrait d'entrevue d'une minute environ où il nous explique justement comment il en est venu à représenter Laurent Duvernay-Tardif au sein de la NFL.
Et moi et Laurent, on s'est rencontrés première année de cégep à Grasset. Laurent venait du Collège Saint-Hilaire. Il connaissait pas vraiment grand monde à Grasset. Moi, j'avais mon groupe d'amis du Collège Jean-Eudes qui étaient tous joueurs de football. Fait qu'ils sont, ils ont rencontré Laurent dans l'équipe. Donc, Laurent, il fait partie de notre groupe. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis, on est devenus très bons amis. Et, tu sais, Laurent, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de but de donner joueur de football professionnel. Moi, depuis que j'ai peut-être 10 ans, je voulais donner agent un jour en me disant peut-être, ça arrive, on sait jamais. Moi, je voulais aller en droit, par contre, je voulais donner avocat à la base. Et Laurent voulait donner médecin. Fait qu'on est allé, lui était à McGill, moi je suis allé à l'Université de Montréal. On est resté en contact, tu sais, puis je suivais sa carrière, je suivais lui, tu sais, évidemment, on se voyait dans des contextes d'amis et tout. Puis, écoute, on avance ça, on s'est rencontré quoi, je pense, en 2008. Et en 2013, il me lâche un coup de fil, puis il me dit, sache, j'ai plein d'équipes NFL qui appellent, j'ai des agents qui me courent après, mais je sais que tu as toujours voulu faire ça. Je te fais confiance, ça t'intéresse-tu de m'aider là-dedans? Puis, écoute, je me suis lancé là-dedans, j'étais en Australie à l'époque pour un échange étudiant pour ma dernière session à l'université. Puis on a commencé ça comme ça, drôlement, avec personne ne le connaissait. Laurent, aujourd'hui, est très connu. À l'époque, c'était pas quelqu'un qui était très connu du tout. Puis là, on avance presque 7 ans plus tard, puis nous voilà à Miami au Super Bowl. Fait que c'est quand même très trippant.
Wow, quelle histoire! Ouais, hein? Ce gars-là est fidèle, hein? Duvernay-Tardif. Enfin, bref, son agent, ouais, il va faire quoi pendant la partie? Là? Qu'est-ce que ça fait un agent de joueur de football pendant un Super Bowl?
Parce que souvent, pour les amateurs comme ça, qui suivent le football, on se dit, bon, un agent, c'est là pour négocier des contrats. Bon, oui, mais là, il n'y a pas de contrat à négocier en fin de semaine, sauf que l'agent de Laurent, lui, il a pris en charge toute l'organisation logistique entourant la venue des parents de Laurent, de ses deux sœurs, de sa conjointe, de ses amis. Tu dis qu'il est très fidèle, il est fidèle en affaires, il est fidèle en amitié également, parce que ses amis, ce sont ses amis d'enfance là, qui le suivent depuis un bon moment, et ce sont ces amis-là qui seront ici à Miami pour assister au Super Bowl. Et qui est mieux placé que l'agent de Laurent pour nous dire comment il se sent, Laurent Duvernay-Tardif, en ce moment, parce qu'il se parle et se texte chaque jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dernière conversation hier soir, je te laisse entendre donc l'agent de Laurent Duvernay-Tardif qui nous dit comment, à son avis, il se sent présentement son client et ami.
Fébrile et concentré. Je l'ai vraiment, là, je le sens. Super, super focus sur son match. Il m'a texté hier, j'ai une bonne pratique, j'ai hâte. T'sais? Puis ça résume tout. C'est même pas, oh mon Dieu, regarde South Beach, oh, regarde les voitures, regarde. Non, j'ai une bonne pratique. La même chose qu'il m'aurait texté s'il était à Kansas City. Fait que ça montre quelqu'un qui est concentré. On se cachera pas que la ligne offensive doit connaître un bon match pour aider les Chiefs à gagner ce match-là. Il le sait, il en est conscient, mais il met les efforts pour réussir. Ça, je pense que le Super Bowl a été joué à Miami ou en Alaska à ce temps-ci de l'année. Je pense qu'il y aurait la même préparation.
Bon, ben écoute, on leur souhaite un bon match. Hier, Phil, tu m'avais parlé d'une histoire de ballon. Tu m'avais promis que tu allais me parler d'une histoire de ballon?
Oui, les ballons de la NFL. Okay? C'est la compagnie Wilson, okay, qui fabrique les ballons de la NFL depuis 1941, sans interruption. Tous les ballons sont fabriqués en Ohio et il y a 24 000 ballons comme ça par année qu'on envoie aux différentes équipes de la NFL. C'est 780 ballons pour chaque équipe. J'ai rencontré ici, moi, un des dirigeants de la compagnie Wilson qui m'a expliqué que Comment ça s'est passé là, lorsqu'il y a eu les finales d'association, dès qu'on a connu le nom des deux équipes qui participeraient au Super Bowl, c'était la fin de la soirée, tout au long de la nuit, on a fabriqué les nouveaux ballons avec les logos des deux équipes et dès le mardi midi, ces ballons-là étaient déjà entre les mains des deux équipes pour qu'elles puissent s'entraîner avec ces ballons-là. Mais ce qui est particulier au Super Bowl, c'est qu'habituellement, on fournit 24 ballons aux équipes par match. Là, c'est 108 ballons qu'on a envoyés aux Chiefs, 108 du côté des 49ers. Et il y a 54 ballons par équipe qui seront mis en jeu. Mais pourquoi on en met autant en jeu? Le dirigeant de Wilson m'a fait remarquer, là, regardez à la télévision lors du premier quart, soyez attentifs, à chaque jeu ou presque au premier quart, les arbitres vont changer le ballon. On va toujours mettre un nouveau ballon en jeu à chaque jeu. Pourquoi? Parce qu'on veut que ces ballons-là servent officiellement durant la partie, parce qu'on va en mettre une centaine comme ça en jeu pour qu'on puisse les revendre, par exemple, pour des œuvres caritatives dans l'année, qu'on puisse en remettre aux joueurs par excellence, en envoyer au temple de la renommée du football américain. Donc, vous remarquerez, là, à partir du début de la partie, au moins pour le premier quart, on va changer de ballon très, très, très souvent.
C'est très bien, ça. C'est très, très bien. Je vais te dire, je sais pas combien ça vaut, hein, à l'encan, un ballon qui a servi pendant le match du Super Bowl, je sais pas.
Ça peut valoir cher, surtout que tous ces ballons-là, là, ils sont faits à la main. Hein. Ici, d'ailleurs, on peut... Oui, tous les ballons qui servent dans des matchs, que ce soit des matchs réguliers ou éliminatoires dans la NFL, sont fabriqués à la main. Oui, il y a une usine, mais c'est vraiment fait à la main. Ils sont tous pesés, mesurés de manière électronique pour s'assurer que chaque ballon soit toujours pareil. Et on a conservé à peu près la même façon de produire les ballons depuis des décennies parce que si on changeait le poids, par exemple, un petit peu, ou la texture, ça pourrait changer le livre des records. Ça pourrait peut-être faciliter, certaines passes. Le ballon pourrait aller plus rapidement, des choses comme ça. Et on veut pas que les records, pas qu'on veut pas qu'ils soient battus, mais on veut que les records établis aujourd'hui, en 2020...
soient battus avec le même ballon, c'est ça.
Exactement, pour que ça soit comparable selon les époques. Donc, ça, on peut visiter ça ici, au Palais des Congrès de Miami Beach. Il y a un kiosque où Wilson, justement, a installé une sorte de réplique miniature de son usine et on fabrique des ballons devant les yeux des gens.
Philippe, je te souhaite un très bon match.
Ben merci beaucoup.
Et merci pour toutes ces histoires que tu nous as rapportées pendant toute la semaine. Te la voix un petit peu éraillée. Si les gens pensent que c'est juste des vacances, c'est beaucoup de travail.
Puis on va espérer vraiment une victoire des Chiefs, probablement, pour pouvoir te parler en onde lundi, en après-midi, avec les réactions de Laurent qu'on va capter à chaud dans le vestiaire à la suite de la partie de dimanche.
Excellent, Philippe Bonneville. Merci.
Merci, bye-bye.
Évidemment, le Super Bowl, il y a le match. Puis il y a tous les à côté, notamment les publicités. On va aller rejoindre Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Bonjour, Luc.
Bonjour, Bernard.
Ah, moi, les publicités, j'adore. Évidemment, toi, tu les as vues. Tu en as sélectionné quelques-unes là, qui t'ont particulièrement frappé et impressionné.
Il y a celle d'Audi qui est intéressante parce que ça nous rappelle aussi que c'est une bonne prise de contact sur les nouvelles réalités du moment. On se souviendra que, par exemple, au début 2000, on avait eu le fameux Super Bowl Internet. Et puis là, on venait de découvrir à bien des égards cette nouvelle bébite-là. Et là, on est dans une autre séquence actuellement. On est dans la séquence du social. Et puis, on commence aussi à entrouvrir la porte de l'environnemental. Je le précise parce qu'évidemment, on est dans une grande fête de la consommation. Il ne faut pas le nier. Mais au-delà de ça, c'est aussi une belle occasion là, d'avoir une petite idée de ce qui s'en vient. Alors, dans le cas de Audi, c'est une voiture électrique qu'on nous annonce carrément.
OK. Quelles sont les autres publicités qui ont attiré ton attention?
Ben, il y a évidemment la publicité de Planters. Il est arrivé quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, évidemment. Alors, il y a 2 ou 3 mois, on commence à réfléchir à une campagne. On décide qu'on va enterrer la mascotte de Planters, M. Peanut. Je ne sais pas si tu le visualises avec son chapeau haut de forme qui a traversé les époques. Alors, on décide qu'on va l'enterrer durant la campagne publicitaire au moment du match. Mais évidemment, ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est que Kobe Bryant, dimanche, va décéder et que là, soudainement, ça devient un peu délicat d'évoquer quelque chose qui pourrait ressembler de près ou de loin à cet incident-là. Alors, dans le cas de Planters, très rapidement, dimanche, on fait disparaître la campagne. Et puis là, il faudra voir comment on va retravailler ça, parce que visiblement, on va être obligé de réfléchir à quelque chose d'autre. Par ailleurs, tu as un autre annonceur qui débutait sa pub avec un hélicoptère qui allait dans toutes les directions. Alors, tu vois comment soudainement, oups, la sensibilité étant ce qu'elle est, ça transforme complètement la façon de percevoir le message. Évidemment, je ne peux pas ne pas te parler du Super Bowl et de la publicité sans te mentionner qu'on va avoir une première cette année, de la pub politique avec Donald Trump d'un côté et Michael Bloomberg de l'autre. Et tiens-toi bien, je te rappelle que la pub est à 5,6 millions du 30 secondes cette année. En d'autres mots, 170 000 $, 175 000 $ à la seconde. Mais et puis, dans les deux cas, ils ont dit, sais-tu quoi? C'est un deal, ça. On ne prendra pas un 30 secondes, on va prendre un 60 secondes. Alors, et Donald Trump et Michael Bloomberg vont utiliser 60 secondes. En début de semaine, il y avait un sondage du Wall Street Journal qui laissait entendre que les gens n'étaient pas sûrs, c'est-à-dire que c'est un événement sportif. Peux-tu, pendant 2h30, 3h, ne pas me parler de politique, qu'on s'amuse? Parce que là, dans la salle, on peut présumer que statistiquement, il y a la moitié de la salle d'une couleur, puis la moitié de l'autre. Donc, peu importe ce qui va se passer, il y a la moitié de la salle qui va être fâchée à un moment donné, puis l'autre moitié de la salle qui va être fâchée l'autre moment donné. Alors ça reste à voir. Moi, j'ai mes doutes sur cette stratégie-là, mais je comprends qu'à partir du moment où il y en a un qui a acheté une pub, l'autre ne pouvait pas ne pas en acheter.
Lequel a été le premier, Bloomberg ou Trump? Ça doit être Bloomberg.
Maudite belle question, Bernard. Et je vais te donner la réponse. Tu vas regarder le match. Le premier des deux qui va passer, c'est lui qui aura acheté la pub en premier. Parce que tu peux être certain qu'ils ont exigé. Le premier qui a eu l'idée a demandé « je vais être plus tôt que plus tard ». Je te rappelle toujours que plus on avance dans le match, la bière aidant, la mémorisation des messages diminue, l'attention des messages aussi aux messages diminue. Alors logiquement, ton premier, c'est lui qui aura eu l'idée. J'ai une petite idée de la réponse, mais je vais te laisser regarder le match.
D'accord.
Et puis tu verras ce qui va se passer.
Est-ce qu'on va pouvoir les voir d'ailleurs, ou est-ce que ça va être bloqué là?
Évidemment, à chaque année, on a l'impression que c'est comme une aventure. Hein. On ne sait jamais exactement ce qui va se passer. Alors là, on avait eu l'occasion la dernière fois, souviens-toi, de voir tout ça sans trop de problèmes. Tout juste avant les fêtes, Bell est retourné en appel contre le CRTC et a remporté son appel. Alors, logiquement, si tu écoutes bien sûr le match à CTV, qui est une propriété de Bell, tu ne verras pas les publicités américaines. Sur le réseau Fox classique, probablement que tu ne les verras pas non plus, mais je soupçonne que si tu écoutes Fox HD avec une station américaine, là, je pense que tu vas que c'est possible, selon les marchés, de le voir. Et pourquoi je te dis ça avec toute cette réserve-là? Parce que ça m'est déjà arrivé lors de Super Bowl précédent, qu'en fonction de l'endroit où on restait au Québec, on était capable de les voir ou de ne pas les voir. C'est aussi curieux que ça. Ça risque d'être un petit peu plus difficile en toute franchise.
Cela étant, Luc Dupont, on peut déjà les voir. Si on va sur Internet puis on fait publicité du Super Bowl 2020, il y a le Huffington Post notamment qui les a mis en ligne là.
Oui, moi, ce que j'ai fait sur mon site Internet, lucdupont.com, dans mon blog, je les ai toutes mises. Elles sont toutes là. Bon. Alors, tu en as autour d'une cinquantaine. Et durant le match, il va se dépenser en 2h30 plus de 400 millions de $ uniquement en placement publicitaire. Ajoute à ça, bien sûr, le tournage des messages, souvent 2, 3, 4 millions de $ supplémentaires. Si bien qu'à la fin, on a une aventure qui tourne autour de 6 à 700 millions de $ pour 2h30 d'action, avec quelques stars aussi qu'on a sorti des boules à mythes. Par exemple, Facebook, qui pour la première fois cette année annonce, et c'est sans surprise à certains égards, parce que la dernière année a été difficile, on parle de scinder la compagnie en deux, évidemment tous les scandales que l'on connaît sur l'information, sur notre vie privée.
Budweiser va être là, Luc,
Budweiser va être là aussi, et Budweiser a acheté 4 minutes, donc 4 publicités de 60 secondes. Dans le cas de Facebook, c'est Sylvester Stallone qui va être là, avec Chris Rock. Il y a MC Hammer, tu te souviendras peut-être d'un gros succès des années, ouf! Je dirais fin des années 80, début des années 90, je ne voudrais pas me tromper, avec Cheetos qui va être là aussi, et Pepsi avec une promotion super originale pour son Pepsi zéro. Tiens-toi bien, si le match se termine avec un zéro dans le score, par exemple 27 à 20 ou 22 à 10 par exemple, Pepsi offre le Pepsi zéro gratuit pour tous les Américains le lendemain du match.
Eh, boy. Il y a même une publicité, j'en ai vu une, qui met en vedette une actrice qu'on a vue dans Game of Thrones.
Oui, et sur ce plan-là, ben, année après année, tu as toujours des gros joueurs qu'on nous ramène. Puis en parlant de gros joueurs, il y a la mi-temps aussi avec Jennifer Lopez et Shakira. Jennifer Lopez qui, sur son Instagram depuis à peu près 3 semaines, promet le plus grand show de la mi-temps de tous les temps. Alors, le moins que l'on puisse dire ici, c'est que la pression ne peut pas être plus forte que ça. Et encore cette année, 20% de tous les annonceurs ont une chose en commun. Ce sont des gens qui sont issus du domaine de l'automobile. Kia, 11e année consécutive qu'on achète de la publicité. Hyundai, Porsche avec une pub extraordinaire, Toyota, GM, je te parlais d'Audi un petit peu plus tôt. Alors, tous des gens qui vont être là cette année. Et ajoute à ça le concert habituel de croustilles et de bonnes choses pour la santé. Snickers, Pringles, Heinz, évidemment Coca-Cola et Pepsi et Planters et Mountain Dew et Doritos. Alors, ils sont absolument toutes là, toutes ces marques-là qui, dans ce cas-ci, là, font énormément de fric durant ce match-là pour les raisons, bien sûr, que l'on connaît.
Oui. On en consomme. Luc Dupont, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. Merci, Luc.
Bon match.
Ben oui, toi aussi. Bon match. Dans un instant, Patrick Lagacé.